voix nue. Toute cette semaine, France Culture rediffuse la rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. Ce soir, le génocide arménien.
Le génocide arménien, moi, j'ai pas été élevé dans ce climat de tristesse que certains ont cultivé. Mes parents n'ont pas voulu que l'on soit écorché par le malheur qui était arrivé à notre peuple. Mon père est parti de Géorgie pour aller chanter. Il s'est retrouvé en Turquie où il a rencontré ma mère qui était comédienne. Ils se sont mariés je ne sais où et je n'en connais pas la date parce qu'on ne parlait jamais de ces choses-là. Et lorsqu'ils ont senti qu'à leur tour, ils allaient être trucidés, en fait, puisque tout le reste de la famille a été... De la famille maternelle, a été envoyé dans le désert, le désert sort. Ils ont pris le premier bateau qui quittait Istanbul. Ceux d'Istanbul ont été frappés, bousculés, mais pas trucidés trop. Ils sont montés donc sur un bateau italien avec beaucoup de difficultés parce qu'on voulait pas laisser partir des gens qui parlaient arménien. On ne laissait pas partir, on les tuait, mais on ne les laissait pas partir. C'est-à-dire que leurs cadavres devaient pourrir là-bas. Et de là, ils sont partis pour Salonique. Comme d'ailleurs les Grecs, parce que les Grecs partaient sur Salonique. On oublie souvent, dans le génocide du peuple arménien, on oublie que le peuple grec aussi a été génocidé.
Les Grecs de Turquie ont aussi payé très cher.
Oui. Alors qu'on vienne pas me dire à moi que c'est parce que ces gens étaient omniprésents dans tout, etc., etc. Un peuple ne change pas. Si le peuple arménien s'est très bien tenu dans le monde entier et que nous sommes considérés comme la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora la plus facile à vivre, on l'a prouvé en France, eh ben on était les mêmes là-bas finalement. Ce qui dégénait, c'est qu'on était chrétiens. Et l'Allemagne qui laissait porte ouverte à tous les massacres, tout le monde est plus ou moins responsable. Et quant à ce qu'on appelle la raison d'État qui a empêché les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Amérique, ne parlons même pas de l'Allemagne, de stopper ce qui se passait, parce qu'il y avait les usines de téléphone à mettre sur pied, l'électricité, le gaz, etc., etc. Bon, ce qu'on appelle donc justement la raison d'État, ça se fait au détriment de la chair des autres.
Vous écrivez que vous n'avez jamais, ça c'est la chose curieuse, que vous n'allez pas vous mettre à dos la communauté arménienne en France parce qu'elle vous est acquise, mais vous écrivez quand même que vous n'avez jamais participé aux manifestations de commémoration du génocide.
Je n'ai jamais défilé pour quoi que ce soit. C'est non seulement pas pour le génocide, je n'ai pas défilé pour un parti politique, pour une question française importante. Je ne défile pas. J'ai horreur de ça. Les gens qui se tiennent par la main, qui vont, bon, c'est leur affaire, c'est une autre histoire. Les défilés, est-ce que ça fait quelque chose de pas... Il y a de grandes... Une ou deux fois, dans des décennies, il y a eu des défilés qui ont servi à quelque chose. Mais il y avait beaucoup qui ne servent à rien. En plus, vous savez bien comment on dit, la presse dit toujours, il y avait 5000 personnes qui défilaient, ou la police dit qu'il y en avait 5000, et le parti politique dit qu'ils étaient 50 000. Alors... C'est très difficile. Je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Je défilerai un jour. Oui. Le jour où un haut fonctionnaire ou un responsable politique turc ou un ambassadeur de Turquie accepte de défiler avec moi. Là, je défilerai. Et ça sera la seule et unique fois. Mais sinon, je ne défilerai pas. Mais j'ai eu aussi de Turquie, j'ai reçu ce genre de... La presse a dit que j'avais défilé contre la Turquie et que la photo était dans le Figaro. J'ai dit qu'on m'amène la photo. Ça fait 5 ans. J'attends toujours la photo. Je n'ai jamais défilé. Je ne défilerai jamais. Je n'ai jamais dit du mal du peuple turc.
Oui. Et même des Kurdes qui ont été les artisans du génocide souvent.
Un groupement d'étudiants turcs m'ont écrit un jour pour que je vienne en aide aussi à eux, comme je le fais pour l'Arménie. Ce à quoi j'ai répondu, nous avons un petit contentieux. Si vous voulez bien l'admettre, je le ferai. Ils n'ont pas voulu. Ils se sont tenus à l'écart. Je n'ai rien fait pour les Kurdes, pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie. C'est, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais c'est pas ceux d'aujourd'hui. C'est toujours pareil. Il ne faut pas faire l'amalgame. Seulement, les Turcs et les Kurdes font l'amalgame. Ils pensent que c'est eux qui n'ont rien fait. Et que eux n'ayant rien fait, les autres n'ont rien fait. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler.
Vous écrivez dans le livre, dans l'exergue, et on sent que ça vous a blessé, qu'à un moment, bon, certains bons amis ont fait courir le bruit que vous faisiez des trafics d'armes au Karabakh. Et que vous rejetez, mais on sent que c'est un rejet viscéral de la violence.
C'est un journaliste azéri qui est venu chez Guillaume Durand et qui lui a dit que je faisais un trafic d'armes pour... Et Guillaume Durand m'a fait téléphoner pour me demander de venir et avoir rencontré ce monsieur à l'antenne. J'ai dit, je ne vais pas aller rencontrer un monsieur qui va raconter n'importe quoi. Et je finirai par lui faire une claque dans la figure, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que pour pouvoir détruire le travail que je faisais, les Azéris avaient envoyé... Ou était-il parti uniquement de son... propre chef était venu pour raconter n'importe quoi. Si je vendais des armes, j'ai connu de très grands marchands d'armes. Et chez eux, j'ai rencontré des grands généraux français, des généraux argentins, Monsieur Agnew, Nixon. Bon, on rencontrait de tout, tous ces gens. Vous savez, les gens qui vendent des armes sont des gens très fréquentables, paraît-il. La preuve, je les ai fréquentés.
Très sociable.
Mais il m'est parvenu à l'idée de demander des armes pour là-bas. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrange, au contraire, d'une manière normale, d'un gouvernement ou l'autre. Ça, j'étais très en colère.
Je voudrais surtout parler chansons avec vous, mais c'est vrai
ça,
que...
Ça, c'est mon arme.
Une arme douce.
Ah, il y a parfois des mots qui...
violente, oui. Mais la chose qui est un petit peu effrayante avec la fin de l'Union soviétique, c'est quand les chefs du KGB... tout d'un coup, ont viré ultranationalistes et sont arrivés au pouvoir dans chaque pays.
Et souvent, ils sont devenus la mafia aussi.
Et en attisant les haines nationales...
L'Arménie n'a pas eu à s'en plaindre. Bon, que les apparatchiks soient devenus un peu mafieux, qu'ils aient mis la main sur les lieux qui auraient dû être vendus normalement, c'est une autre histoire. Mais ça, de toute manière, c'est mondial. Alors, je ne vais pas me mettre à lutter contre ça. Seulement, à chaque fois qu'on a eu un problème avec un mafieux, moi, je monte au créneau, je vais voir le président, et je lui dis, c'est pas normal, ça n'est pas bien, si je raconte ça en France, ça va faire un scandale qui va rejaillir sur l'Arménie, il faut pas. 2 heures après, c'est terminé. Voilà, c'est pas difficile. Et quand on me dit, vous êtes proche du président, mais vous ne savez pas, peut-être que, où il fait ceci, il y a toujours une... Il y a toujours des gens qui sont contre. J'ai dit, moi, je ne suis pas proche du président. Je suis proche de l'homme qui est au pouvoir à l'heure actuelle parce que j'ai besoin de lui comme il a besoin de moi. Voilà. Et je travaille pour le peuple arménien. Je ne travaille pour aucun parti politique. Aucun des partis politiques d'Arménie ou de France ne peut se targuer de m'avoir dans ses rangs. Je trouve qu'il y a des gens intelligents partout, il y a des imbéciles partout, et il y a des bandits partout, et des gens de cœur partout. Alors, je travaille pour, je dirais, pour mes peuples.
Vous suivez le monde artistique turc? La culture turque vous intéresse quand même?
Bon, il y a des choses qui m'intéressent, mais la culture turque, il y a
pas beaucoup artistes comme Zeki Müren, avant,
ah bon, oui,
c'est
mais quelqu'un. Zeki Müren, c'est un cas particulier. Oui, ça, je connaissais très bien la musique. Les chansons de Zeki Müren, qui était un personnage haut en couleur. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, d'ailleurs.
Non, il n'est plus de ce monde depuis une
dizaine en couleur, c'est adoré dans le pays. Quand vous pensez que
c'est un peu un traîné, c'est un mélange de traîné et de Redaker.
Non, c'est plutôt Redaker. C'est plutôt Redaker. Quand il a voulu se retirer, les gens n'ont pas voulu. En plus, les femmes venaient et il parlait de ses amours masculines. Mmh. Elles venaient et elles pleuraient les histoires d'amour masculines qui étaient en mauvaise passe. C'était un être assez très étonnant.
Un très grand chanteur.
Oui.
Enfin, vous savez que les Arméniens ont marqué la culture classique turque, par exemple.
Les Arméniens ont marqué la Turquie. L'architecture, la culture, la musique. Ils ont marqué, ben oui, parce que quand on arrive dans un pays et qu'on épouse... Nous, ils ne sont pas arrivés dans un pays. la Turquie a conquis l'Arménie que l'on appelle aujourd'hui l'Arménie turque. Bon, à partir de ce moment-là, ils sont devenus donc turcs, ils ont vécu en Turquie, ils parlaient déjà le turc, et il est normal que les jeunes gens aient fait leur travail dans une communauté totalement mélangée. Le nier est une erreur. Qu'aujourd'hui, les Turcs ne permettent pas que l'on reconstruise la capitale d'Ani, c'est une erreur touristique extraordinaire. Comment ce peuple, qui n'est pas un peuple d'imbéciles, quand on me dit les Turcs, c'est des... Je dis non, c'est un peuple intelligent, très intelligent, ils se sont toujours très bien tirés de tous les mauvais pas, parfaitement. N'oublions pas qu'ils étaient contre nous en 14, et ils étaient contre nous en 39.
C'était neutre.
Non, ils n'étaient pas vraiment neutres. Non, ils n'étaient pas vraiment neutres, ne dites pas ça. Ils ont été contre nous. Bon, ils étaient en train de perdre une bonne partie de la Turquie quand Atatürk est arrivé. Ils se sont tirés de tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens et des politiciens de haut niveau. On ne peut pas dire d'un peuple, parce qu'on a des problèmes avec ce peuple, on ne peut pas dire que c'est un peuple d'imbéciles. Ça n'est pas vrai. Ça, je ne le permettrai jamais. Je ne le permettrai pas parce que ce n'est pas dans ma manière de penser. Moi, je suis un homme, je pense que je suis un Arménien qu'on peut appeler un juste. Je suis un juste.
Vous êtes aussi universel, quand même.
Oui, mais je pourrais être universellement de mauvaise foi. Je ne veux pas être de mauvaise foi. Vous savez, j'ai eu des amis turcs, très importants. J'ai eu un de mes amis turcs qui est décédé. J'ai été vraiment très vexé parce que sa famille ne me l'a même pas m'envoyé un mot en me disant qu'il était décédé dans un accident de voiture. Il s'était marié avec une Autrichienne. Bon, il a donc deux filles qui sont moitié autrichiennes et moitié turques. On aurait pu m'envoyer un mot. Rien. Je l'ai appris par hasard, des années ensuite. Et j'ai envoyé un mot. Je n'ai pas reçu de réponse. Est-ce que tout d'un coup, ces gens se sont dit, c'est un Arménien, etc.
Est-ce qu'ils ont eu peur?
Peur de quoi?
De la police là-bas, de...
Allons donc. Il n'était pas marié. J'ai été vivre chez lui à Istanbul. Il avait deux appartements. Il m'en a donné un. Et ses parents étaient à côté. Et j'ai connu ses parents. Il appelait ma mère mamie. Il a emmené ma mère sur les lieux où elle avait vécu quand elle était enfant. Il m'a trouvé à l'époque deux Bibles arméniennes qui m'avait ramené. Vraiment, c'était quelqu'un avec lequel on s'appelait brother. On parlait anglais, il parlait pas le français. Très coureur. Très proche de ces associations de Miss. Il aimait beaucoup ça. Vous savez, on peut dire des fois, j'adore telle personne. C'est un ami que j'adorais. Et vraiment, on était en correspondance toujours et on se voyait toujours quand il venait. Alors, je ne suis pas anti-turc.
Tout est possible.
Je suis anti-Ankara, qui n'est pas logique. Je trouve qu'un peuple aussi intelligent ne peut pas se permettre d'être aussi bête, d'être aussi buté, d'être aussi négationniste.
C'est la classe dirigeante. Peut-être que le peuple est...
Non, le peuple, je n'en parle jamais du peuple. Je ne dis jamais quoi que ce soit contre le peuple. Je me suis fait construire une maison dans le Midi. Je n'ai pas dit, quand j'ai vu que c'était des Turcs qui faisaient le travail, je n'ai pas dit, je ne veux pas de Turcs pour construire ma maison. J'ai au contraire été les voir, et je crois même qu'ils m'ont envoyé une des femmes qui venait d'entrer en France. Ils m'ont apporté des plats turcs, qui sont les mêmes que les nôtres, et que j'ai adoré. Non, moi je suis quelqu'un d'un peu écorché du fait que je me sens obligé de ne pas aller en Turquie. On m'a invité une ou deux fois à aller pour des festivals.
Vous êtes très populaire, en fait. Vous savez que vous êtes populaire.
J'ai dit, j'irai volontiers, à condition que je sois invité officiellement. Mais on m'a dit, on vous invite officiellement. Le festival vous invite officiellement. J'ai dit, non, je vais être officiellement invité par le gouvernement. Ce qui serait bien, ce qu'on s'assoit autour d'une table non officielle pour discuter de choses simples et que je donne mon point de vue et qu'ils me donnent le leur, mais qu'ils ne nient pas qu'ils me donnent le leur. Et que s'il n'y a pas de journaliste, pas de micro, etc., ils peuvent peut-être être tout d'un coup plus honnêtes.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, de ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits, et déjà le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu, le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait, qu'ils ne pouvaient expliquer, et c'était toi, liberté des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau, droit devant eux un jour s'en sont allés. Mais ils n'ont pas fait quatre pas, que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave? Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, de ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, femme rêve des hommes, ils ne rêvaient que de toi, ils ne vivaient que par toi, et c'est pour toi qu'ils prieront dans le ciel. Rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont pas froid, n'ont pas peur, c'est toujours toi, liberté, leur soleil. Et quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un l'autre ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi, mais vive aussi, vive la liberté.
Charles Aznavour, pour vous, l'extermination des Arméniens, ce n'est pas une chose de l'histoire contemporaine, c'est une histoire de famille, puisque, pour ne parler que de votre mère, elle a perdu tous ses proches dans le génocide, sauf sa grand-mère, qu'elle a d'ailleurs amenée avec elle en France. Vous avez des souvenirs de cette femme qui venait quand même d'un monde très lointain?
Je l'ai à peine connue, c'est ma sœur s'en souvient beaucoup mieux.
C'est une femme qui venait du 19e siècle.
Ah oui, oh oui, mais vous savez, quand il y a du 19e, on peut dire même du 18e, même que si elles sont nées en 19e siècle, parce que dans ces pays-là, les femmes étaient très retirées. Elles n'étaient pas du tout des esclaves. On oublie, on pense toujours que les femmes ont été les esclaves des hommes. Ça n'est pas vrai. C'est vrai dans certains pays, mais ça n'est pas vrai dans nos pays, dans les pays chrétiens, absolument pas. Et même, je pense, dans un pays comme l'Iran, ça n'est pas vrai non plus. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Mais je sais que c'était souvent des vraies histoires d'amour. Mon grand-père, il était expert en tabac, il voyageait beaucoup dans le pays, il avait vu à une fenêtre une silhouette où il était tombé follement amoureux. C'est une très belle histoire d'ailleurs. Et il rentre chez lui, il dit à ses parents, j'ai vu une jeune femme et je veux l'épouser. Bon, les parents vont voir, elle a 13 ans. Elle est jeune, mais dans ces pays-là, et finalement, il a épousé, quand elle avait 15 ans, ou 14 ans et demi, 15 ans, il l'a épousé. Et bon, ils ont été génocidés tous les deux. Mais c'est une belle histoire d'amour, et ça arrivait très très souvent. Et dans la plupart des opérettes et des pièces de théâtre, on raconte des histoires comme celle-ci.
Des grandes histoires d'amour passionnelles. Grandes,
oui. D'ailleurs, la poésie amoureuse arménienne est très très importante. Sayat Nova, c'est amour, 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 amour. Alors, on me dit, comment se fait-il que vous ayez commencé par tant de chansons d'amour? J'ai dit, j'ai quand même dévié un peu, parce que... Mais c'est vrai que j'ai été bercé par les chansons d'amour. Même les berceuses pour les enfants sont les chansons d'amour.
Donc, vous vous naissez à Paris. Ce qui m'a frappé en lisant les mémoires, c'est qu'on parle au moins 4 ou 5 langues.
Oui, géorgien, arménien, turc, grec, russe. Et le français, bien sûr, ce qui fait déjà 6 langues.
Déjà depuis...
Non, mes parents ne parlaient pas le français. Mes parents ont appris le français à travers ma sœur et moi. Mais nous, on était des petits parisiens. D'ailleurs, quand on entend ma sœur et quand on m'entend moi, on n'a aucun accent qui rappellerait l'Arménie. Ma mère parlait sans accent et mon père parlait avec un très fort accent, mais avec un vocabulaire qui m'a toujours étonné.
Il lisait
en français? Non, mon père lisait en russe. Les Arméniens, comme les Russes parlent beaucoup de langue aussi. Et je trouve ça tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous sortez les frontières avec simplement la langue arménienne? Rien. Ça ne sert à rien, la langue arménienne. Ça ne sert qu'à, bon, bah, qu'à se rapprocher de ses racines, qu'à ne pas ignorer.
À lire Sayat-Nova dans le texte, quand oui. même. Qui est un des plus grands poètes de l'humanité.
On ne peut pas lire Sayat-Nova dans le texte parce que c'est dans une langue que l'on ne comprend pas. Ma sœur comprend très bien.
Elle
moi,
l'a
moi pas.
Elle oui. a enregistré des,
mon père aussi.
Des poèmes de Sayat-Nova.
Mais moi, je ne comprends pas. Ça, c'est comme quand je vais à la messe.
L'arménien ancien, oui.
On a une langue morte. Mm-hmm. Elle n'est pas tout à fait morte, vous voyez, puisqu'on est toujours là et qu'on va toujours à l'église.
Vous pouvez un peu raconter cette famille
C'est une famille
très joyeuse.
Très joyeuse, un peu folle. Bohème, ouais, tout ce qu'il y a de plus bohème. Porte ouverte, jour et nuit. Mon père avait le vin gai, ce qui était intéressant, parce qu'il aimait bien boire. Et alors, si on avait eu un père qui avait eu le vin mauvais, ça aurait été embêtant. Mais il avait le vin très gai, trop gai même. Parce que quand il rentrait d'une bonne soirée, j'arrivais très souvent d'ailleurs, il réveillait tout le monde. Il plaçait ma sœur au piano, moi je tapais sur la table, et puis on chantait les chansons. Et si les voisins frappaient, il faisait venir les voisins, il leur offrait à manger à boire, et puis on avait donc énormément de voisins. C'est là où ils se sont perfectionnés en français, c'est que on a eu des voisins qui venaient à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et en disant, ils appelaient mon père Micha, ah Micha, Micha, bon, et ils étaient ravi d'être des amis de la maison. C'est-à-dire qu'on était une espèce de ghetto de gaieté qui plaisait aux gens, parce que quand même, c'était une époque difficile, fin des années 20. En 30, ça s'arrangeait un petit peu plus. Non, je rêve souvent de mes parents, et j'ai toujours la nostalgie de cette folie que je n'ai plus. Ma sœur, là encore, et même elle l'a beaucoup, mais moi, pas du tout.
Quand on lit vos mémoires, on a l'impression que c'était des parents très aimants.
Oui, et qui nous laissaient totalement la bride sur le cou. Et quand on disait de nous, on disait, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces pauvres enfants? Oh là là, quelle vie ils vont avoir, vous vous rendez compte, ils sont élevés, ils sont mal élevés. On n'était pas mal élevés, on n'était pas élevés. Mais pour ce qui était de la moralité, pour ce qui était de toutes les traditions, on était merveilleusement élevés.
Et en même temps, on sent qu'il y a une culture. C'est des parents qui sont peut-être modestes, mais qui ont... Votre père chante en combien de langues?
Ben, la plupart du temps, en trois. Mais il aurait pu chanter en plus. Bon, il y avait aussi des chansons qu'il chantait dans d'autres langues, mais en trois. C'est-à-dire qu'en arménien, en russe, surtout en arménien, en russe, en géorgien aussi. C'est une belle culture aussi. Mon père était né en Géorgie. Alors, c'était curieux. Moi, je suis français, n'est-ce pas? Ma mère était donc turque, puisqu'elle était arménienne de Turquie. Mon père était donc géorgien, puisqu'il était arménien de Géorgie. Mais nous, on a toujours pensé que nous étions des gens de tel pays. Donc, vous êtes d'où? Moi, je suis géorgien. Ma mère ne disait plus « je suis turc ».
Elle, c'était même l'Empire ottoman, c'était même pas la Turquie.
Non,
c'était
bien sûr.
Un empire qui était un conglomérat de diverses
bien
nations.
Sûr. Et puis, bien sûr, il y a eu des sortes de pogroms par les Ottomans. On dit toujours les Ottomans, mais finalement, c'est le gouvernement jeune turc qui a fait massacrer les Arméniens. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas l'attitude d'Ankara, qui continue... on écrit dans les livres d'histoire maintenant... le mal que nous leur avons fait, que nous les avons massacrés. C'est-à-dire que les 1,5 million de morts, on a l'impression que c'est les Turcs qui sont morts. Mais pas du tout, il ne faut pas exagérer quand même. Moi, je ne sais pas, mais en ce moment, la Turquie veut rentrer en Europe. Toute l'Europe est presque d'accord pour la faire entrer. Est-ce qu'on ne va pas, encore une fois, vendre la peau des Arméniens? Je ferai confiance à la Turquie le jour où le gouvernement turc renversera la vapeur. Et qu'elle dira, oui, depuis 1926, où Kemal Atatürk a reconnu ce qui s'était passé, on a essayé d'effacer l'histoire, eh bien, la vérité, c'est Kemal qui la tenait. Il ne faut pas oublier que ça a été dit, quand même. Ça a été dit en Turquie, et il y a eu des responsables qui ont été poursuivis par Kemal Atatürk. Le même Kemal Atatürk, qui n'a pas été, ça n'a pas été un ange pour les Arméniens, Avec la différence, c'est que s'il n'y avait pas eu Kemal Atatürk, la Turquie n'existerait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était un très grand homme, il faut reconnaître les vertus des gens.
Un grand pourchasseur d'intégristes.
Oui, et de dames. Il aimait beaucoup les dames.
Pas pour faire les mêmes choses.
Pas pour faire les mêmes choses, et ça, ça le rend encore plus sympathique. Il aimait la musique et les dames. Important.
Vous-même, il suffirait de pas grand-chose. Vous aimeriez aller chanter là-bas, si justement il y avait...
J'ai chanté dans le temps, j'ai chanté deux fois. On demande souvent d'y aller pour des festivals, etc., etc. Mais comme on a appris aux Turcs que nous étions les méchants, il suffit d'un fou. Alors, je veux pas aller chanter là-bas pour avoir des gardes du corps autour de moi. J'en ai pas ici. J'ai aucune raison. J'ai fait des nombres de pays. J'ai fait beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays musulmans. J'ai été chanté jusqu'au Koweït.
Vous êtes très aimé par les orientaux, comme...
Disons tout ce qui fait le tour de la Méditerranée, oui. Pas absolument les orientaux, les juifs, les yougoslaves, etc., etc. Non, parce qu'en plus,
le Maghreb, vous êtes...
Oui, ça n'en parlons même pas. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a dans ma voix et dans ma manière d'écrire des choses qui sont très orientales. J'aurais pu faire muezzin très bien, quand même. Et même cantor.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon et Mathieu Maroudin, réalisation Manouchak Fachaï et Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Thank you.